vous êtes animateur territorial au parc régional. Et j'aimerais savoir un petit peu comment vous êtes arrivé à faire ce métier et en quoi ça consiste exactement.
Voilà, alors, il est difficile d'aborder la question du métier sans parler un petit peu des origines, et principalement des origines du service. Le parc régional, au départ, a mis en place deux unités importantes. Hein. La première unité, c'était une unité qui faisait du terrain et du développement. À l'époque, il s'agissait de préparer les grands outils du parc. Le principal outil, ça a été le GR20. Bon. Donc, les gens travaillaient sur le terrain, avaient été sélectionnés pour. Et à côté de ça, il y a un service scientifique qui a été mis en place parce que la Corse avait, à cette époque-là, la réputation d'être une terre très riche en matière de biodiversité. Et on ne savait pas où est-ce qu'on allait. C'est-à-dire que, bon, on savait par exemple qu'il y avait du gypaète, mais il n'y avait pas de comptage qui avait été fait. On savait qu'il y avait de l'aigle royal, pareil, le balbuzard, pareil, des plantes, des fleurs extrêmement rares en haute montagne. Hein. Vous savez que c'est comme ça, petit à petit, en travaillant, qu'on s'est aperçu que 50% hein, environ, et même à partir de certaines altitudes plus, par exemple, que la. Plus de 50% de la flore est endémique à la Corse. Bon, il y a eu tout un travail scientifique qui a été amorcé par le parc, et au fur et à mesure qu'on a pris conscience de ce travail et des richesses que contenait la Corse, on s'est rendu compte que cela ne pouvait être indissociable d'une action éducative envers la population. C'est pour ça qu'au parc a commencé quelques années après, hein, aux environs des années 75, le parc a été créé en 1972, a été mis en place sur le terrain en 1972, un service action éducative. Bon. Le meilleur moyen de communiquer avec la population, en dehors évidemment des outils médiatiques locaux hein, à l'époque, qui ne sont pas si étendus que ça, hein, parce, par exemple, Radio France, RCFM n'existe pas à l'époque. Hein. Par exemple, FR3, il n'y a pas de. Hein, c'est avec la régionalisation que se sont développés les médias nationaux et régionaux, hein, avec des antennes régionales. Il y a le meilleur moyen de communiquer avec la population, c'est de passer par les institutions et donc de passer par l'école. Les objectifs poursuivis à travers ça sont multiples. D'une part, on considérait que former les hommes, et c'est toujours en vigueur ça, hein, former les enfants d'aujourd'hui, c'est aussi former les hommes de demain, hein, c'est transformer les mentalités pour demain. Bon. Et puis, indirectement, l'école, c'est un moyen aussi de toucher les adultes. Bon, ça passe par les enseignants. Les enseignants, à l'époque, n'avaient peut-être pas, comme aujourd'hui, la vocation, hein, disons l'envie de travailler sur ces thèmes-là, bon, tout simplement parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas vraiment les supports pour maîtriser la connaissance. Bon, il n'y a pas, par exemple, les mêmes productions pédagogiques. Il n'y a pas toute cette quantité, hein, de documentation qui a été faite depuis, en collaboration avec le parc, par le Centre Régional de Documentation Pédagogique. Bon, par exemple, à l'époque, il n'y a pas toutes les cassettes vidéo, il n'y a pas de vidéo d'ailleurs. Hein, bon. Et on fait le choix de passer par l'école, un de nos principaux outils, en ce temps-là, c'est la sortie sur le terrain. Comment la matérialise-t-on ? Bon. Déjà, il y a la connaissance du milieu forestier. On commence à organiser, par exemple, des trains verts sur Vitsavone, hein, qui existent encore aujourd'hui. Bon, on commence à créer autour de l'école l'activité Sentier Nature, hein, qui permette donc à l'enfant de prendre conscience que tout près de chez lui, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Voilà, on travaille toujours sur ces outils-là. Hein. Petit à petit, on met en place, on élabore toute une série de documents pédagogiques, hein, qu'on appelle ça des fiches pédagogiques, que l'on propose aux scolaires sur des thèmes les plus divers. Hein. Ça peut passer très bien. Il y a des fiches pastoralisme, il y a des fiches sur la faune, la grande faune, il y a des fiches sur la botanique. Bon, il y a une multitude de sujets qui sont abordés. Hein. Il y a des sujets qui ont attrait au monde rural et des sujets qui ont attrait au patrimoine naturel. Voilà, il y a tout ce travail qui est élaboré. Bon, après, le service s'est développé. Bon, à l'origine, il y a une personne, hein, l'ancien directeur, monsieur. Et aujourd'hui, l'ensemble du service compte environ 15 personnes. Hein. Bon, je dis environ parce qu'il arrive quelquefois qu'il y ait des CDD, hein, qui... voilà. Voilà, il ne faut pas omettre aussi qu'à partir du moment où on travaille avec les enseignants, il y a tout un travail de production, hein, en tant que document de premier abord qu'on met à la disposition des enseignants, mais il y a aussi tout un travail préparatoire, c'est-à-dire que ces choses-là, il faut apprendre à les faire. Hein. Par exemple, le fait d'élaborer des activités sur le terrain, c'est installer des activités dans des milieux différents. Hein. Bon, on a travaillé, par exemple, on a fédéralé nature sur le milieu littoral, sur le maquis, sur la forêt. Hein. Bon, il y a eu tout un travail de conception, hein, qui a été fait. Et puis, ce service action éducative a aussi été amené à travailler au contact du public d'adultes, et un public d'adultes à l'intérieur de la Corse. Le meilleur moyen de les toucher, c'était par exemple de travailler sur des points de grand rassemblement, comme par exemple les foires. Bon, en l'espace de presque 30 ans, il y a pratiquement une exposition qui a été produite tous les ans, hein, sur des thèmes extrêmement divers. Bon, il y a eu énormément d'interventions, bon, surtout, hein, pendant les premières années, pour expliquer aux gens ce qu'était le parc régional, hein, et en gros, hein, pour essayer d'expliquer quel était l'enjeu, hein, d'un parc naturel régional, hein, avec l'aspect développement, avec l'aspect éducation. Bon, c'était de faire admettre, hein, aux gens qu'ils allaient vivre dans un parc régional à l'époque, c'était peut-être pas très 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 évident non plus, hein, parce qu'ils voyaient à travers cette institution, hein, la mise en place et le renforcement de cette institution, il percevait cela un petit peu comme une privation de liberté, hein, ce qui au contraire n'a pas été le cas. Bon, hein, vous savez que le parc, en matière de répression, n'a pratiquement, les gens n'ont pas de pouvoir. Hein. Le travail du parc, c'est surtout un travail de conseil. Hein, et ce sont des gens qui sont à la disposition des élus et des populations rurales.
Est-ce que vous pensez que le tourisme est un frein à la préservation des eaux naturelles ou bien qu'au contraire cela favorise l'aménagement en montagne ?
Bon, le tourisme, on peut considérer, hein, par certains aspects, la réponse est forcément ambivalente. Parce que, bon, d'une part, c'est sûr, plus on amène de gens en montagne, plus il y a de consommation qui se fait sur place, plus il y a d'impact sur les milieux, c'est évident. Bon, je crois qu'il y a, d'un côté, il y a cet aspect-là, mais sans le tourisme, on peut considérer qu'il y a tout un travail de protection des milieux qui ne se ferait pas. En fait, à travers ça, il y a une grosse question de prise de conscience. Moi, je crois que aménager, Aménager, c'est avant tout protéger. Et protéger, c'est avant tout faire de l'information. Le tourisme, on ne peut pas empêcher les gens de venir. Bon. Les gens, donc, il y a toute une série de... Les gens sont là, hein, ils veulent consommer de la nature maintenant, hein, ils veulent faire du canyoning, ils veulent faire de la randonnée pédestre, ils veulent faire de la randonnée équestre, ils veulent faire de l'escalade. Bon. C'est évident que l'impact sur le milieu, il y a forcément un impact sur le milieu. Hein. L'essentiel, c'est de savoir comment on va gérer cet impact sur le milieu. Bon. En ce qui concerne le parc, jusqu'à présent, hein, le principal outil, c'est le GR20. Bon, le choix qui a été fait, c'est qu'on reproche souvent au GR20 de Corse d'être un GR spartiate. Bon, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de ravitaillement dans les refuges, hein, parce que les conditions d'accueil, ce sont des conditions qui sont relativement dures, parce que la capacité d'accueil des refuges est petite. Bon, petit à petit, évidemment, maintenant, avec les normes de sécurité, hein, et les normes d'hygiène qu'il y a, on est obligé, hein, de normaliser les refuges. Mais on préfère rester, hein, sur, jusqu'à présent, hein, rester... sur un GR très dur. Hein, c'est l'image qu'a notre GR20. Bon, comme ça, d'une part, en gardant un GR très dur, on limite l'accès, hein, parce que les gens qui font le GR sont obligatoirement des gens qui ont un niveau sportif relativement élevé, hein, mais même parmi ceux-là, quelquefois, il y en a qui ne vont pas d'un bout à l'autre, qui ne font qu'une partie, donc. Et on limite l'impact sur le milieu. Après, pour tout ce qui est site sensible, bon, quand on prend par exemple des cas comme la vallée de la Restonica et par exemple les lacs de Melo et Capitello. Bon, sur ce type de site, maintenant dans la vallée, il y a des panneaux d'information partout. Hein, sous l'impulsion du parc, bon, et d'autres organismes comme la DIREN et l'Office de l'Environnement, la mairie, hein, on a réussi à mettre en place avec l'autorité municipale, hein, qui est propriétaire de la vallée, hein, je vais peut-être me répéter, mais il faut tenir compte d'une chose, c'est que le parc n'est propriétaire de rien, hein, nous ne sommes pas propriétaires de l'espace, hein, nous sommes là en tant que conseillers, hein, et nous avons réussi à impulser le fait qu'on mette un comité de gestion, par exemple, de la vallée de la Restonica. Bon, c'est-à-dire que maintenant, dans la Restonica, on gère les poubelles, on gère les parkings, hein, et on gère les flux. C'est extrêmement important. Bon, c'est sûr que plus on déploiera de moyens, hein, bon, moi, il y a une chose qui me fait un peu peur, vous voyez, c'est qu'en Corse, on a un patrimoine botanique qui est extrêmement important, et c'est sûr qu'on ne peut pas mettre un agent derrière chaque famille ou derrière chaque groupe de touristes qui vient. D'où l'importance de sensibiliser et de communiquer, hein, de transmettre l'information, hein, très très rapidement. Hein. Il faut absolument veiller à limiter les prélèvements, hein, surtout sur le plan des espèces botaniques, hein, menacées. C'est un aspect qui est très important. Après, la fréquentation, c'est sûr qu'il y a un impact sur le terrain. Bon, l'impact, ce sont le premier impact, ce sont les rejets directs. Bon, disons que là, quand même, dans chaque refuge, il y a des panneaux d'information. Bon, il y a des discussions qui sont possibles avec le gardien. Il y a maintenant une activité qui est mise en place donc par l'Office de l'Environnement et le parc. On prend contact avec les gens sur le bateau déjà. Hein. Sur le bateau, il y a des séances d'information, il y a de la documentation. Et pendant les périodes de fréquentation de pointe, il y a des gens, hein, qui sont là pour donner des explications. Bon. Il y a aussi, à la demande, hein, parce qu'on ne peut pas s'imposer, une information ou des informations, même des séances d'information le soir, qui sont possibles auprès des grands établissements du bord de mer, hein, auprès des grands campings, auprès des grands centres d'accueil type CNRO, voilà, hein, dans, VVF, bon, ça se fait encore, ça.
De ces cibles,
le village vacances famille, hein, et le CNRO, Centre National de la Retraite Ouvrière. Bon, c'est vrai que ce ne sont pas ces gens-là, hein, qui vont avoir le plus d'impact sur la montagne, puisqu'ils viennent sur le littoral, en général, ils viennent pour profiter de la mer. Mais disons que de plus en plus, par exemple, ils mettent en place pour les enfants des activités randonnées, des activités escalades. Bon, et puis, il y a les aménagements, à proprement dit, hein, à surveiller et à entretenir sur les sites eux-mêmes.
Et est-ce qu'actuellement, il y a une disparition de la faune et de la flore en Corse ?
Il y a, par certains aspects, des espèces en Corse qui sont encore menacées. Bon, je parle là surtout en matière de grande faune. Hein. Bon, il y a des animaux chez nous qui ont une valeur emblématique. L'aigle royal, hein, le gypaète barbu, le mouflon, la citelle, le cerf. Bon. En matière de grande faune, on peut, à mon avis, affirmer maintenant, hein, sans aucun problème, hein, sans aucun risque, qu'on est en situation de réussite. Bon, par exemple, les résultats du Babusard des années 70 à maintenant, la population a été multipliée par 10. En matière de cerf, il y a eu un plan cerf, hein, qui a été mis en place pour la réintroduction de cette espèce depuis 1985, hein, c'est-à-dire que les premiers faits, hein, constatés commencent en 1985. À travers une concertation, une communication avec la Senda Foresta Domaniale de Sardaigne, on a réussi à réintroduire le cerf de Corse. Hein, je dis le cerf de Corse parce que le cerf sarde s'appelle le cerf de Corse. Bon, le cerf en Corse, le cerf de Corse d'origine, a disparu dans les années 69. Bon, depuis 85, on a créé trois enclos, hein, trois enclos d'élevage, faits à partir d'une population de Sardaigne, et là, on l'a réintroduit, et maintenant, en gros, hein, hors enclos et à l'intérieur des enclos, on peut compter qu'en Corse, il y a une population de cerfs d'environ 150 individus. On était parti de 4 cerfs au départ, hein. Enfin 6 cerfs, hein. Puis après il y en a 2 qui ont disparu, qui n'ont pas pu s'adapter, hein, de suite. Il y a eu un accident au départ, hein, un accident au moment du lâcher. Petit à petit, il y a eu des cerfs sardes qui sont venus, des cerfs corses qui sont allés, hein, pour le renouvellement génétique, hein, pour éviter les risques de consanguinité. Bon, maintenant, on a quand même une population de près de 150 cerfs. Bon, donc une partie, hein, on peut considérer que l'opération de réintroduction est en voie d'aboutissement, parce qu'on en général, hein, une opération de réintroduction n'est réussie que lorsqu'il y a des animaux, hein, qui sont passés par une phase élevage, qui sont retournés au milieu naturel. Hein. On a maintenant des cerfs dans la nature en Corse, hein, et ça, c'est une grande réussite. Bon, quand on parle du mouflon, bon, c'est vrai que le mouflon, il est difficile d'estimer la population parce que les comptages sont très difficiles. Le mouflon, on pense que la population a quand même aussi progressé. Hein, pas autant qu'elle le fait, hein, dans d'autres régions de France, mais parce qu'en Corse, le mouflon vit dans des milieux qui sont extrêmement, dans des milieux de refuge qui sont extrêmement hostiles. Hein, vous savez que le mouflon, c'est un ovis, c'est un ovin, hein, qui vit en haute montagne. Bon, c'est pas évident, hein. Mais disons que au niveau du braconnage, il y a probablement, hein, une baisse, hein, à travers les actions de sensibilisation. On a obtenu, hein, qu'il y ait une baisse. La population est beaucoup plus sensibilisée, c'est-à-dire que les gens communiquent mieux. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dans la dizaine de jours qui suit, on le sait. Voilà, et ça, c'est déjà énorme. Donc, pour les espèces qui appartiennent à la grande faune, dans l'ensemble, bon, l'aigle royal aussi, le gypaète, pour le gypaète, on peut considérer que la population se maintient. Hein. Et là, bon, il est évident que pour le JPAET, bon, il y a, c'est sûr, au niveau du milieu, une variable qui est en train de se transformer maintenant. On peut considérer que pour le JPAET, la majeure partie des proies du JPAET, vous savez que le JPAET, c'est un vautour qui consomme des eaux. Bon. 80%, on peut considérer que 80% de l'alimentation du JPAET se fait à partir d'animaux domestiques maintenant, hein, principalement des ovins et des caprins qui sont en montagne, qui sont amenés en montagne par les bergers. Et à partir du moment où la transhumance ne se fait plus, qu'elle ne se fait plus par les sentiers, parce qu'il y a malgré tout une petite perte par les sentiers, par exemple avec la traite électrique, les durées d'estive sont beaucoup plus courtes, il est évident qu'on va être obligé de pallier à ça. Et de plus en plus, on est obligé d'amener, de les nourrir artificiellement, d'amener des animaux morts que l'on dépose dans des charniers. Ce qui fait que la population de JPAET, dans l'ensemble, maintenant, on peut considérer qu'elle se maintient. Il y a un léger accroissement, mais qui est extrêmement faible. Actuellement, on dénombre 8 couples de JPAET, une population de 16 individus environ, et il doit y avoir 3 à 5 immatures, à peu près. Pour ce qui concerne la grande faune, donc globalement, on est en situation de réussite, et... vous voyez, par exemple, pour ça, bon, il y a eu une expo mouflon qui a été faite. Il y a eu une cassette mouflon qui a été faite en collaboration avec un FR3. Bon, ces instruments ont été diffusés grand public, mais il y a eu des activités avec les écoles. Donc, reprise des documents, en les mettant à la portée des enfants, avec des documents d'évaluation, avec une part enquête, évaluation. On a fait la même chose sur le balbuzard. Bon, on va probablement faire la même chose sur le JPAET. Sur le JPAET, à la limite, j'oublie quelque chose d'important, on va même aller au-delà. Parce que là, il y a un programme qui est en cours d'élaboration, auquel on a travaillé avec les Alpes et le parc régional des Pyrénées, le parc national des Pyrénées, je dis des bêtises.